Le Mag Éco, en partenariat avec le Journal des entreprises.
Et bonjour à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce magazine Éco chaque mercredi, émission en partenariat avec le Journal des entreprises. Bonjour Olivier Amar.
Bonjour Bastien.
Avec moi donc pour co-animer ce programme, on démarre avec votre invité de la semaine, Pierre-Georges Schmiederbergans, dirigeant de Console et Compagnie, cabinet de conseil solidaire et de formation implanté à Angers.
Oui, bonjour Pierre-Georges Schmiederbergans. Vous êtes donc associé du cabinet Console et Compagnie à Angers. Vous accompagnez des entreprises, des associations, des structures du médico-social et des décideurs à travers des plans de formation. Vous avez mené en début d'année une enquête client et puis vous accompagnez depuis entre autres les organisations sur des questions un peu nouvelles en entreprise. Je ne sais pas si elles sont réellement nouvelles, on verra, telles que l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Qu'est-ce que c'est tout d'abord Console et Compagnie ?
Console et Compagnie, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, en effet, de conseil et de formation. Et donc on accompagne différentes organisations de façon transverse sur les transformations et en gros sur des enjeux de ressources humaines et d'engagement.
Alors vous êtes agréé ESUS, entreprise oui. solidaire d'utilité sociale, ça veut dire quoi ?
Eh bien, c'est une forme juridique en fait qui nous correspond, qu'on avait à cœur de mettre dès le lancement de Console et Compagnie. Et l'idée de base, c'est de se dire quand on veut servir quelque chose, autant l'incarner. Et donc, on a trouvé dans ce modèle juridique une façon de vivre aussi ce qu'on voulait vivre en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est le fait d'avoir comme objectif premier une utilité sociale. Il faut avoir au moins 70% de mission d'utilité sociale quand on est ESUS. Nous, on est à 95%, mais c'est la première donnée d'entrée. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus un modèle fait pour tout le monde, toutes les activités. Et puis après, c'est le choix aussi du plafonnement de la rémunération des dirigeants, ce à quoi nous, on tient dans cette forme d'équilibre aussi. Ça fait partie des engagements qu'on a eu le souhait de prendre. Et puis, reversement des dividendes, la moitié des dividendes dans l'entreprise, gouvernance démocratique. Il y a différents critères qui animent ce modèle juridique qui nous collait, en fait.
Alors, vous intervenez auprès de PME, de groupes, d'entreprises du médico-social, de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est la même approche à chaque fois ? Est-ce que c'est les mêmes problématiques ?
Comme toujours, j'ai envie de faire une réponse de Normand avec oui et non. Aujourd'hui, l'idée aussi de l'enquête qu'on a pu mener et des nouveaux services, c'est de se dire que de plus en plus, il faut une approche globale et qui se fait dans le temps. Là où on a cumulé des périodes spécifiques en réponse à une urgence, comme on a pu le faire durant le confinement ou juste après, là où on faisait dans des entreprises certains séminaires de cohésion, certains programmes d'action, de formation spécifique suite à des crises RH, etc. Là, on se dit en fin de compte, il y a une pédagogie globale qui va toucher en fait l'équilibre pro-perso et ça, on le retrouve partout. Cette question, elle est majeure. Alors évidemment, on parle beaucoup des soignants, de ceux qui sont particulièrement exposés, mais en fait, on le retrouve partout. J'ai envie de dire la question de l'intergénérationnel aussi, parce qu'au-delà du grand intergénérationnel où on propose à des jeunes, des enfants de maternelle d'aller dans les EHPAD, il y a aussi l'intergénérationnel en entreprise, le rapport au travail, etc. Et puis, il y a la question aussi de certaines formes de fragilité qui sont apparues et qui s'accentuent. Alors, on peut dire des fragilités psychologiques, etc., peut-être, mais en tout cas, qui sont à accompagner, à prendre en compte. Et là, c'est vrai que la question du rôle de l'employeur peut-être s'élargit un peu.
Ça veut dire que dans vos métiers de conseil aux entreprises, il faut s'adapter sans arrêt aux évolutions du monde du travail, de la société. Je me souviens qu'en 2020, vous aviez proposé par exemple une formation sur le retour au travail des salariés après le confinement, oui. Une formation aussi aux dirigeants, etc.
Tout à fait, on avait proposé, alors on continue d'ailleurs, c'est des groupes de co-développement, donc des groupes de dialogue entre pairs pour à un moment casser des formes d'isolement. Et par exemple, ces groupes de co-développement sur le territoire, ils sont construits avec des dirigeants et des dirigeantes de tout, là pour le coup, de tous les environnements. On a des gens qui sont dans l'enseignement, on a des gens qui sont dans le médico-social et on a des gens de l'entreprise. Et en fait, ils se rendent compte que leurs problématiques, alors de financement sont peut-être différentes, d'actions sont différentes, mais par contre, question de la posture managériale, de l'accueil des nouveaux besoins, eh bien en fait là, pour le coup, il y a une grande transversalité qui pour nous est hyper intéressante à capitaliser.
Alors vous dites qu'il y a de nouvelles choses qui sont apparues en entreprise ou dans les organisations en général. Vous avez mené une enquête en début d'année, une enquête client. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ?
Alors ce qu'il en est ressorti, c'est quand même des formes d'attente et de fragilité qu'il faut prendre en compte de façon plus claire et sur lesquelles il faut accompagner à la fois sur la formation et sur la posture managériale. C'est vrai que l'enquête au début était sur la dynamique en effet des entreprises, sur les questions sociales de la RSE, parce qu'on se rendait compte que c'était une part vraiment à prendre en compte. Et puis suite à différentes remarques de clients, dont des entrepreneurs qui me disent « mais moi, je suis pas dans l'action sociale. Moi, je suis pas travailleur social. » Oui, c'est vrai. Mais du coup, comment on répond à des besoins émergents ? Et ce qu'il en est sorti, c'est justement la nécessité de proposer des programmes plus longs plus construit sur un calendrier et de sortir peut-être des événements sporadiques qui s'accumulent, qui servent tous le propos, hein, qui sont tous en soi bons, mais qui doivent prendre une pédagogie beaucoup plus globale, accompagner la personne tant sur le plan individuel que sur le plan du collectif et du projet de l'entreprise et de l'impact sociétal, donc différents niveaux d'intervention.
On associe ces mutations souvent à ce qu'on appelle la génération Z. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est pas plutôt le fait d'un changement de société en général, un changement plus profond, un lien différent entre le travail et la vie perso? Vous l'avez évoqué à plusieurs fois.
Oui. Expliquer peut-être que la génération Z, c'est tous ceux qui sont arrivés sur le marché du travail, enfin les dernières années, quoi.
On est né
après 95.
Entre 20 et 25 ans aujourd'hui, c'est vrai que c'est toujours intéressant, hein, les points de vue plus ressources humaines à proprement parler sur les différences générationnelles. Elles existent. Et on les constate, hein, mais on les constate dans les aspects positifs comme dans les aspects où on doit évoluer en termes d'appréhension. Mais de mon point de vue en tout cas, de notre point de vue en tout cas, côté console, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a, au-delà de ça, il y a quand même un phénomène sociétal. Il y a des gens qui sont pas du tout de la génération Z qui se posent la question de changer complètement et des fois dans des environnements inattendus. Quand on a une directrice d'IME qui me dit « moi, je veux changer de job, donc d'établissement médico-social, je veux changer de job parce que je veux un job qui ait du sens », elle n'est pas dans la génération Z. Elle se pose la question de l'engagement, de sa juste place, de l'énergie qu'elle va mettre dans le travail. Donc, c'est vrai que moi, je m'extrais un peu en me disant que cet écart, ces différentes générations, il y a quelque chose à capitaliser entre les notions d'engagement des uns, la soif d'apprendre des autres, etc., mais qu'on est quand même plus dans une question profonde et sociétale post-confinement, fin qui pointe son nez de télétravail, et on le voit aussi hein, dans les solutions mises en œuvre par beaucoup d'entreprises, ça part tout azimut, certaines déconstruisent alors qu'elles sont posées de façon bienveillante, d'autres construisent. C'est un sujet complexe et assez profond qui dépasse, je pense, le champ générationnel.
Qu'est-ce qu'elles attendent sur ces questions-là, les entreprises? Des solutions?
Ouais, elles attendent des solutions. C'est marrant parce que quand on se met à l'écoute des dirigeants, on se pose toujours la question de se dire qu'est-ce qu'ils attendent et qu'est-ce qu'on a envie de leur amener. Évidemment, le but, c'est...
Eux aussi peuvent se poser ces questions-là.
Oui, ouais, carrément. Alors, c'est vrai que la question de la fidélisation des équipes et la question de l'attractivité, c'est des enjeux majeurs. Mais il y en a un enjeu qu'on aime beaucoup. Nous, c'est avec aussi la question de la performance. Parce qu'en fait, loin d'être un tabou, c'est quelque chose qui est un vrai moteur de l'entreprise. Et donc, la question de la performance, c'est la question aussi de la compétitivité, du rapport aux clients, du rapport aux autres acteurs du territoire. Qu'est-ce qui fait la caractéristique propre de cette entreprise? Et du coup, en fait, pour nous, à des enjeux, en fait, qui sont des enjeux sociaux et sociétaux globaux. Et en fait, c'est super d'y trouver dans ce moteur social et sociétal un moteur de performance entrepreneuriale.
Justement, quand une entreprise, elle doit avant tout être performante, est-ce que ces questions sociétales et sociales, elles ne passent pas au second plan?
Eh bien, alors nous, on y voit une super équation. En fait, ce serait peut-être un peu trop résumé de dire faire du dialogue social un moteur de performance entrepreneuriale, mais en fait, nous, on y croit. Se dire qu'aujourd'hui, on est en capacité d'accueillir certaines fragilités sans tabou et de mettre en place un accompagnement ou un aiguillage vers d'autres acteurs du territoire qui sont spécialisés. Si je reprends cet exemple de cette petite industrie qu'on avait pu accompagner sur ces sujets, on s'est retrouvé à faire une formation sur les acteurs sociaux du territoire pour les managers. C'est intéressant parce que c'est la prise de conscience d'acteurs à côté. C'est peut-être leur voisin, hein, c'est peut-être la personne qui habite en face de chez eux. Ça leur fait découvrir un champ que certains connaissent mais d'autres pas. Ça leur permet d'aiguiller des salariés sans rentrer dans leur sphère privée et donc quelque part peut-être même de garder une forme de distance qui est beaucoup plus saine. Et puis en même temps, ça les réimplique sur une vision plus globale de la personne humaine, etc. Donc c'est pour nous, c'est gagnant-gagnant.
Pierre-Georges, je lisais à droite, à gauche, qu'aujourd'hui, les salariés, de plus en plus, vous parliez de fidélisation tout à l'heure, et de cet enjeu important, ils étaient de plus en plus fidèles finalement à une équipe autour d'eux, ils accordaient énormément d'importance à cela, plus qu'à l'entreprise finalement. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez également, et comment on fait justement pour permettre, donner des clés aux entrepreneurs d'avoir aussi cette double notion de fidélisation, d'accord, de l'équipe, mais d'être aussi attaché à l'entreprise?
Ouais, alors ça c'est un sujet, une fois de plus, une question large, parce que la question de la fidélisation, c'est, je pense qu'il faut déjà revenir sur ces schémas mentaux de c'est quoi la fidélisation des salariés. C'est pas attendre qu'ils fassent une carrière complète, etc. Donc je pense qu'il faut, bon, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais prendre conscience que la fidélisation, c'est, il faut bien se ramener en fonction de sa génération et de sa culture, c'est qu'est-ce qu'on attend. Mais en tout cas, quelles que soient les générations, nous on voit des personnes hyper engagés, qui ont envie d'être en autonomie, d'avoir des idées, de travailler en équipe. Et ça, c'est une fidélisation réelle. Alors oui, on doit prévoir que dans un parcours d'un an, on en a peut-être 25% qui seront sortis d'ici la fin du parcours et d'autres qui arriveront. Mais le parcours doit être construit pour ça. Et pour le coup, oui, cette notion d'engagement et de prise de parti dans l'activité entrepreneuriale. Ça, on le voit toute génération et ça, c'est très, très enthousiasmant. Très enthousiasmant.
Comment vous accompagnez concrètement les entreprises? C'est-à-dire que vous avez mis en place un menu, entre guillemets, avec différentes recettes et les entreprises vous demandent ces différentes recettes?
C'est ça. Alors en fait, c'est souvent un dialogue évidemment qui se fait avec les dirigeants en fonction de ce qu'ils estiment être les enjeux et puis des retours qu'on peut leur apporter sur ce qui a déjà été mis en œuvre. Et puis ensuite, assez rapidement, il y a vraiment un diagnostic collectif qui est porté. Ce diagnostic collectif, il va évidemment impliquer les personnes en interne, mais avec certains partenaires, il implique aussi leurs clients, il implique aussi leurs partenaires, leurs fournisseurs, et donc on a une échelle un peu plus large. Et ce diagnostic, il doit permettre aux pilotes des entreprises de se dire en définitive, voilà comment, entre ce que moi je vois comme enjeu, ce que mes équipes voient comme enjeu, et ce qu'on a comme enjeu social et sociétal, on fait un match et on a quelque chose de cohérent. Et suite à ce premier diagnostic partagé qui est la première étape, eh bien en fait, ils ont en effet un choix et il y a un menu, en effet, avec différentes entrées, différents plats, fromage et dessert et boissons qui accompagnent. Et on va venir piocher ce qui est de l'accompagnement individuel sur certaines choses qui va permettre à, par exemple, des personnes qui sont aidants, qui sont en situation de handicap, qui connaissent des étapes de vie aussi particulières, de pouvoir être accompagnées. On va se poser aussi la question de choses qui sont plus collectives, sur des sujets de communication, de respect de la parole de l'autre, de complémentarité des talents, etc. Et puis des choses qui sont plus sociales, parce qu'on va aussi avoir des actions décloisonnées avec les clients sur la question de la satisfaction client, sur la question de la mobilité sur le territoire, sur différents sujets. Et donc sur ces trois niveaux, il va pouvoir déployer en effet un programme qui va soit être en fait des permanences, soit des ateliers, soit des événements.
C'est le rôle d'une entreprise aussi d'accompagner des personnes dans la boîte qui peuvent être aidantes, qui peuvent être en situation de deuil, par exemple, de choses comme ça. C'est son rôle et jusqu'où elle peut aller, l'entreprise? Il n'y a pas une forme d'ingérence dans tout ça?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est pris à bras-le-corps par beaucoup de structures qui se rendent compte qu'aujourd'hui, il faut absolument... qu'il faut prendre en compte toutes ces situations qu'on peut... De toute manière, si on les laisse sur le côté, on va voir aussi les gens partir pour d'autres raisons ou être en souffrance, ce qui va rien arranger. Et donc, c'est pris. La question, en effet, c'est comment, par contre. Ça, c'est vrai. Je pense que de toute histoire entreprise, même si on remonte à plusieurs années, on a eu des patrons, des patronnes qui se sont penchés sur les situations particulières, etc. Là, l'idée, en effet, c'est de proposer des parcours lisibles où les gens peuvent venir. Cette question d'engagement aussi, nous, on la lit beaucoup à la question de la liberté. Comment on donne la liberté aussi à chaque personne dans l'entreprise de venir choisir et prendre ce dont elle a besoin pour continuer? Et donc, c'est vrai que ça va passer par des permanences. C'est vrai qu'aussi, alors là, c'est de mon point de vue, la question de l'action extérieure est nécessaire. Parce qu'il y a aussi la question de la compétence. Accompagner des aidants, par exemple, ça s'invente pas. On le voit aussi, on a pu accompagner des référents handicap. Certains sont très au fait, dont se forment à peine. C'est bien, mais il faut le voir aussi dans le long terme.
Comment vous allez la déployer, cette nouvelle solution que vous proposez là, désormais?
Eh bien, en fait, oui, c'est simplement communiquer dessus, évidemment, continuer à rencontrer des pilotes d'organisation et puis les mettre en face aussi des compétences qu'on a au sein de l'équipe, puisqu'aujourd'hui, il y a des consultants, il y a des coachs, il y a des psychologues du travail, il y en a qui ont des spécialités. Et donc, c'est continuer aussi d'animer le réseau aujourd'hui qui est composé, d'aller à la rencontre de ces entrepreneurs.
Pierre-Georges Schmider-Bergant, merci beaucoup
à vous
d'avoir été avec nous, dirigeant de Console et Compagnie, cabinet de conseil solidaire et de formation auprès de toutes les organisations et une plateforme web pour en savoir plus sur votre structure. On reste dans l'actualité économique de l'Anjou avec vous, Olivier Amar. Quelques informations en bref et des nouvelles de Ciao Ciao.
Oui, Ciao Ciao. On avait reçu il y a quelques semaines Julien Boucaud, son fondateur. Ciao Ciao fabrique des kits d'aménagement pour voitures et fourgons. L'entreprise a bouclé en 18 jours une levée de fonds de 600 000 euros en financement participatif sur la plateforme Tudigo auprès de 300 investisseurs. À cette levée s'ajoutera de la dette bancaire pour un tour de table complet qui est compris entre 1 et 1,2 million d'euros.
Dans l'actualité également, Game & Biz.
Oui, pour sa troisième édition, Game & Biz, qui est lancée par l'entreprise du même nom à Angers, proposera le 11 avril prochain une nouvelle formule. L'événement marie le business et le jeu vidéo. Il prévoit cette année de se déployer dans d'autres villes de l'Ouest pour atteindre un rythme de croisière en 2025 avec deux événements par mois. Après Angers et ses trois éditions, Game & Biz va s'exporter à Vannes en mai à La Roche-sur-Yon en juin, et puis une édition était prévue à Nantes en octobre, avant d'autres villes de l'Ouest qui sont peut-être Le Mans ou encore Poitiers.
Et puis Syndev est récompensé au Salon de l'Agriculture.
Oui, tout à fait. Lancée tout récemment en février 2024, l'application Synapse, développée par la jeune start-up angevine Syndev, créée en 2022 par Damien Cariot, a remporté le concours Agrin Startup, qui est organisé depuis 10 ans par les chambres d'agriculture. Le prix a été remis lors du dernier Salon de l'Agriculture à Paris, où vous étiez, Bastien, la semaine dernière.
Tout à fait, on rappelle que Syndev est spécialisé dans les solutions de biocontrôle. On poursuit notre magazine avec les débats de l'écho.
Les débats de l'écho, RCF Anjou.